Bonjour, la 15e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité aura lieu le 2 novembre prochain. Ce sujet, qu'il est parfois tabou d'aborder selon les sociétés ou les pays dans lesquels nous vivons, nous allons en parler aujourd'hui dans l'onde curieuse avec notre invitée Elisabeth Foucault, déléguée de l'ADMD 07. Jeudi, notre invité, car aujourd'hui, eh bien, c'est Olivier Horry qui va me rejoindre dans cette onde curieuse pour la partie entretien. Ce sera après les infos et le choix musical de l'onde curieuse. C'est les vacances et durant ces deux semaines, plusieurs lieux du Sud-Ardèche se mobilisent pour proposer des activités. Ainsi, à Vauguet, au château, c'est l'heure du mystère d'Halloween. Jusqu'au 6 novembre, venez aider le gardien du château à mener l'enquête sur deux mystérieux phénomènes. Un jeu pour les 6-13 ans à faire en autonomie à l'aide d'un livret jeu qui est remis à l'entrée durant les horaires d'ouverture. Et puis notez déjà que le 31 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, le château propose une nocturne toujours pour les 6-13 ans entre 18h et 20h. Il faudra vous munir d'un éclairage et la nocturne sera suivie d'un goûter. Tarif 6€, il faut réserver, nombre de places limité au 04 75 37 01 95. À Valse-les-Bains, ce sont des ciné-goûters qui sont organisés par les Quinconces, mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre. Rendez-vous à 14h30 ou 15h pour découvrir des films d'animation. Dragon Ball Super, Super-Héros, Coati, Samurai Academy ou encore Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tarif pour ces projections goûtées, 5€. Enfin, un atelier enfants-parents création de masques sera proposé le 3 novembre à la salle Volane en après-midi, 14h-17h. C'est un atelier gratuit animé par la compagnie Dears Théâtre. Les enfants à partir de 4 ans doivent être accompagnés d'un adulte pendant l'atelier. Là encore, il faut réserver auprès des Quinconces. C'est au 04 75 37 49 21. Et puis j'allais oublier une autre proposition des Quinconces, un spectacle goûter ziglé par la compagnie Trait d'Union, un spectacle circassien d'acrobatie à découvrir au théâtre vendredi 28 novembre à 15h, son tarif quelques 8€. Le manga, lui, est à l'honneur au vent, c'est dans la communauté de communes, expo, ateliers, conférences, après-midi jeux et lectures attendent le jeune public durant ses vacances à la médiathèque. Expo manga tout d'abord, du 26 octobre au 12 novembre, atelier le jeudi 3 novembre en fin d'après-midi, 16h30-18h30 pour créer un manga, et conférence vendredi 4 à 18h30 avec Clara Berkowitz qui va présenter un historique du manga, comprendre sa création et son développement. A noter que l'exposition sera aussi présenté par la suite aux Assions du 15 au 29 novembre et que des ateliers sont également proposés dans d'autres communes les 3 et 4 novembre, dans l'ordre Saint-André-de-Cruzières, Montselgue, Beaulieu, les Assions ou encore Gravières. Renseignements et inscriptions à prendre auprès de la médiathèque d'Évance. Enfin, notons encore que des visites guidées sont programmées durant ces deux semaines avec l'Office de tourisme Porte Sud-Ardèche. Visites simples ou sous forme de jeux de piste. Ce sera à Cruas avec l'abbatiale et son site médiéval, à Rochemort, à Saint-Vincent-de-Barès ou encore à Saint-Thomé, Valvinière ou Bex. Renseignements, c'est auprès du site internet, par exemple, www.sud-ardèche-tourisme.com. Vernissage d'exposition aujourd'hui à Privas. Rendez-vous à l'espace Envol de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche pour découvrir dès 18h Passerelle avec l'Afrique. Une exposition d'œuvres signée Sophie Debazac, Pierre Bobo, Kodja ou encore Camara. Exposition à découvrir jusqu'au 2 décembre prochain. C'est dans le cadre du festival Images et Paroles d'Afrique. Et puis à Valse-les-Bains, la salle Volane, eh bien une nouvelle exposition est proposée dès aujourd'hui. Ce sont les œuvres d'Émilie Ruffat, artiste peintre autodidacte, basée en Ardèche. Vous pourrez découvrir ses œuvres du lundi au vendredi, 8h30, 12h, 13h30, 17h30, et cela jusqu'au 27 novembre prochain. On referme ce point info avec les nombreuses fêtes de la châtaigne. Il y en aura samedi prochain, 29 octobre, à Barnas, par exemple, dès 20h30 à la salle des fêtes avec côté musique Joe Figaro. Un rendez-vous qui s'inscrit d'ailleurs dans le programme La Grande Veillée qui se poursuit le dimanche et le lundi. La 19e fête de la châtaigne en Coiron aura lieu à Darbre. Ce sera samedi après-midi et dimanche, toute la journée. Enfin, au Vence, castagnade musicale samedi, également de 17h à 20h sur la place Ollier. Et puis, il y a encore et toujours les castagnades du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Vous avez rendez-vous jeudi, vendredi et samedi à Saint-Laurent-les-Bains et la Val d'Aurel, samedi et dimanche à Entraigues, et enfin dimanche uniquement à Chalencon. Allez, un tout dernier mot, côté route, pour vous signaler que la route justement des défilés de rue 11 est toujours fermée cette semaine, dernier moment. C'est ça, c'est pour des travaux de purge de falaises. Le chantier doit se terminer ce vendredi 28 octobre. Voilà pour les infos de cette onde curieuse. Dans un instant, on va retrouver notre invité aux côtés d'Olivier Horry. Il s'agit d'Elisabeth Foucault, déléguée de l'ADMD 07, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Mais en attendant, choix musical de l'onde curieuse aujourd'hui avec Jonathan Jeremiah, un nouvel album, le quatrième, House Power for the Streets, qui est sorti le 9 septembre dernier. Ici, Jonathan Jeremiah s'offre un orchestre à cordes, notamment de 20 musiciens pour l'accompagner. C'est un album qui navigue entre le soul, le gospel, le folk, la pop symphonique. Un style bien léché pour lequel on craque. Et c'est certain que les amateurs de ce style vont apprécier. C'est un album qui pourrait même marquer cette année 2022 dans ce style, hein, bien entendu. Courez le découvrir. Voici l'un des extraits qui s'appelle « Cut Black Jammin ».
We're sheltering from the rainfall. She's peering, I'm peering, run it to me. Cause it's Tuesday, still daylight. She's offering a couple grams of sunshine. Yeah. That's when the vision comes, run it to me. Until this morning, on my favorite horse, got a cut a black dog. Right in the ground, hold of what's ruling me. Then I will stay off the sea. Gonna cut that black diamond, I'll leave it in the deep. Come alive, come alive, come alive. Black diamonds, my restless heart, still chasing the tattoos that I saw on my granddad's forearms. Got his blood running through me. So fondly, oh so fondly, youthful dreams deceive. With his high white silk trail blood, I got running through me. I
Jonathan Jeremiah avec Cut Black Diamond dans l'onde curieuse. Eh bien, après le choix musical, c'est l'heure de retrouver notre invité aux côtés d'Olivier Horry pour l'entretien de ce jour.
Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Je suis particulièrement content d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Foucault pour parler avec elle du droit à mourir dans la dignité. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Olivier.
Voilà, Elisabeth est la déléguée départementale de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, chers auditeurs, je crois que pour ce qui est du droit et de la dignité, vous avez bien votre petite idée, mais cette association, évidemment, on a envie de savoir eh bien, quelle est sa vocation, son action, sa mission. Et pour ça, évidemment, Elisabeth est là. Alors, vocation de cette association.
Alors, Olivier, l'ADMD a été fondée en 1980, c'est-à-dire qu'elle a 40 ans. Et depuis 40 ans, elle a été fondée parce qu'elle part d'une constatation, c'est qu'on meurt mal en France. Et donc, on est 76 000 adhérents en France, dont plus de 500 en Ardèche, à se dire que c'est pas possible de continuer à mal mourir en France.
Qu'est-ce que tu entends exactement par mal mourir ? Qu'est-ce que vous entendez à l'ADMD par mal mourir ?
Eh bien, mal mourir en France... Parlons un peu chiffres, il y a environ 500 000 morts en France par an. Sur ces 500 000 morts, il y a environ 20% qui sont ce qu'on appelle des bonnes morts, celles dont on rêve tous, c'est-à-dire on est dans son lit et on s'éteint doucement ou entouré par ses enfants et sa famille. Et puis 30% des décès sont des décès qu'on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire des accidents, des AVC, c'est brutal, rien à faire. Et puis il reste 50% des décès, c'est-à-dire environ 250 000, qui sont des décès à la suite de maladies plus ou moins longues. Et c'est là que les solutions actuelles qui sont proposées en France nous semblent tout à fait insuffisantes.
Tout à fait insuffisantes, ces solutions, j'imagine donc en termes de soins et de prise en charge de ce public souvent malade, handicapé, plus autonome, etc. Et donc, alors, quelque chose à dire peut-être au niveau de notre manière de pallier à ces difficultés, c'est ça que vous entendez par soins particuliers ?
Alors, les gens qui sont, donc ces 250 000 personnes en gros, qui sont en train de s'approcher de la mort, qu'est-ce qu'ils ont comme solution à l'heure actuelle en France ? La première solution, c'est les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quelque chose de très très bien. Malheureusement, en France, leur statut est très inégal, leur situation est très inégale, parce que il y a 24 départements sur 90 qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
24 départements français sur 90, oui, c'est ça, n'ont pas de service de soins palliatifs.
Exactement. Et en plus, la répartition géographique est très inégale aussi. Par exemple, 40% de ces unités de soins palliatifs sont concentrées en Île-de-France, qui, elle, n'a que 18% des décès, des malades. Donc, c'est inégal. Vous habitez au fin fond de l'Ardèche, dans des endroits un peu perdus, ou dans des endroits perdus de France, eh bien, c'est quasiment impossible pour vous d'avoir recours à des soins palliatifs de qualité.
D'une certaine manière, la question du désert médical reprend là encore un autre visage, et un visage, si possible, peut-être encore plus grave, puisqu'il s'agit encore une fois de fin de vie.
Et oui, on sait tous qu'il y a des problèmes, divers problèmes dans le corps médical, dans les possibilités, les moyens qui sont offerts à l'heure actuelle aux hôpitaux, etc. Et nous, une des premières missions qu'on s'est fixée à l'ADMD, c'est de lutter pour que l'accès aux soins palliatifs soit effectivement universel, comme c'est prévu dans la loi. Pour l'instant, nous sommes dans une situation d'inégalité qu'on ne peut pas accepter. Donc il faut que les soins palliatifs soient accessibles à tous et il faut que des moyens supplémentaires, bien entendu, soient débloqués. Mais les soins palliatifs, parfois, ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui sont irréductibles aux soins palliatifs. Il y a par ailleurs des gens qui, pour des raisons philosophiques, personnelles, ne souhaitent pas avoir recours aux soins palliatifs parce qu'ils refusent, pour leur conception de la dignité, de se trouver dans des situations de dépendance qui leur semblent dégradantes, même si autour d'eux, on essaie au maximum d'adoucir leur situation. Et donc, pour cela, la deuxième solution qui s'offre à eux, c'est la loi Léon Éticles.
D'accord. Alors, j'entends bien, et ça me paraît tout à fait important de le souligner, il y a quand même deux aspects. Il y a d'une part la prise en charge de la douleur et du handicap, même de la douleur et du handicap extrême d'un côté, voilà. Et c'est vrai qu'on a les moyens quand on peut y avoir accès, évidemment. Et puis, il y a l'autre volet, c'est-à-dire, et c'est pour ça que votre association se nomme ainsi, il y a la question du droit à mourir. Et ce que vous avez tendance à souligner, et je crois qu'il faut effectivement le souligner, en plus c'est d'actualité, c'est que, et un nom vient d'être, vous venez de prononcer un nom, Leonetti, il y aurait donc, selon vous, et pas que selon vous, soyons clairs, une insuffisance au plan de la législation sur la fin de vie.
Oui, parce que la loi Léon Éticles, on nous dit souvent, elle a été faite en 2016, voilà, elle répond aux situations de fin de vie. Pas du tout, parce qu'elle laisse beaucoup de gens sur le bord de la route. En France, on a 100 000 patients qui sont diagnostiqués de la sclérose en plaques. On a 5 à 7 000 patients qui ont une maladie de Charcot.
C'est la maladie des os de verre, c'est ça ?
Non, pas du tout. Non. C'est une maladie qui va doucement paralyser tout le corps, alors que l'esprit reste, lui, parfaitement clair. C'est-à-dire que ce sont des morts lentes et anxiogènes, évidemment. 18 000 personnes sont diagnostiquées de la maladie de Huntington, autre maladie neurodégénérative. 200 000 personnes et 25 000 nouveaux cas par an qui ont une maladie de Parkinson. Et je ne vous parle pas des gens qui, suite à un accident, vont se retrouver paraplégiques ou tétraplégiques, etc. Plus, bien entendu, les 157 000 décès par an de cancer. Donc tous ces gens-là, qui sont face à une mort inéluctables, ne peuvent pas bénéficier de la loi Léon Éticles parce qu'elle ne s'adresse qu'aux gens en toute fin de vie, c'est-à-dire dans les derniers jours de leur existence, au moment où le processus agonique est déjà commencé. Et à ce moment-là, ils peuvent demander une sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on va arrêter de les alimenter, de les hydrater et on va attendre une insuffisance rénale sévère. Celle-ci peut se faire attendre longtemps. Rappelez-vous le cas de Vincent Lambert, qui à un moment a été arrêté pendant 31 jours de sédation profonde et continue, puis a été réanimé à la demande de la famille. Donc ça montre que ça peut durer très longtemps et c'est quand même insupportable de penser qu'on va infliger ainsi aux malades et à sa famille une lente agonie en attendant la fin, alors qu'il serait possible, par un geste de compassion, de mettre fin à cette agonie.
J'avoue que vous me donnez, Elisabeth, vous me faites prendre conscience de la dimension absolument colossale du problème. C'est-à-dire, ça concerne énormément de gens. Ça concerne des gens qui, bon, s'ils ont un point commun, c'est de devoir mourir, bien sûr, sont quand même dans des situations extrêmement diverses, différentes, hein, d'une certaine manière, beaucoup de gens. Et alors aussi, ça concerne ces gens-là pendant longtemps. C'est-à-dire, là, effectivement, ça donne, je trouve, que ça donne à l'action de votre association une dimension d'urgence, d'importance supplémentaire. Tout à fait. Pourtant, donc, Vous avez, en quelque sorte, vous discernez des perspectives d'amélioration possibles. Quelles seraient ces perspectives très concrètement ?
Ben, il faut être clair, hein, les perspectives, c'est un changement de loi. Presque tous les pays européens autour de nous ont modifié leur législation. En Belgique, ils ont une expérience de 20 ans. Aux Pays-Bas, c'est pareil. Le Luxembourg, l'Espagne a changé sa législation récemment. Le Portugal, c'est en bonne voie. En Italie, il en était question jusqu'à tout récemment. Et nous, on est à la traîne. Et nous, il faut qu'on change la loi. Il faut qu'on adopte une loi qui permette, en cas de maladie devant laquelle la médecine baisse les bras, parce qu'il n'y a pas de soins possibles, parce qu'on sait qu'on est face à un mur, il faut que, en cas de souffrance profonde, inapaisable, que le malade, s'il fait une demande répétée, consciente, puisse obtenir le secours de la médecine pour terminer son calvaire. Voilà ce qu'on demande.
Dignement, donc. Voilà. Mais alors, c'est, je crois, un petit peu d'actualité. Il y a une loi doit être, je crois, prochainement discutée par le législateur, ou je me mélange les pinceaux ?
Pas du tout. Il y a le président Macron qui a enfin envisagé une convention citoyenne pour discuter de la question et aboutir éventuellement à une loi en 2023. Alors, les conventions citoyennes, pourquoi pas ? Mais il y a une représentation nationale qui est faite pour ça. Des conventions, il y en a déjà eu pas mal. Hein. Depuis 20 ans, on fait convention sur convention, commission sur commission, et puis on fait du surplace, où on avance beaucoup trop peu. Donc, soit s'il y a une commission citoyenne qui doit se tenir, eh bien, tenons-la. Mais franchement, c'est un petit peu traîné en longueur, alors qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui partent mourir à l'étranger parce que leur pays ne leur permet pas de mourir dignement. N'oublions pas non plus qu'en France, on a le record d'Europe du suicide des seniors. Donc, la situation est intolérable. Il faut avancer et avancer très vite.
Oui, c'est vrai que bon, on n'est pas plus naïf que ça. Et nous savons très bien que les états généraux, les commissions, et tout ce qui s'ensuit, sont souvent des moyens de reculer pour ne jamais sauter d'une certaine manière. Cette lenteur, cet attentisme qui est, évidemment, je pense qu'on l'a compris avec les chiffres que vous donniez tout à l'heure, cet attentisme qui provoque énormément de souffrances, de douleurs, etc. Et il est causé parce qu'il existe quand même un certain nombre d'oppositions dans le public ou dans le milieu médical à ce choix de fin de vie.
Alors, l'opposition dans le public, non. Parce que les sondages le répètent année après année, il y a 93% des Français qui estiment qu'il faut changer la loi. On a fait encore, nous récemment, là, en 2022, un sondage auprès des Français qui nous dit que 78% des Français attendent de cette fameuse convention citoyenne qu'elle aboutisse à un changement de la loi. Donc là, en ce qui concerne le public, les choses sont claires. Et quand on regarde même l'échantillonnage politique des gens qui déclarent vouloir un changement, ça va vraiment, ça couvre tout l'échiquier politique. D'ailleurs, l'année dernière, en avril 2021, Olivier Falorni a fait une proposition de loi qui a été discutée à l'Assemblée nationale, qui a été bloqué parce qu'il y a eu plus de 4000 amendements qui ont été proposés par 5 députés pour bloquer l'avancée de l'examen de cette proposition de loi. Et l'article 1 a fini par être voté à 10 minutes avant la fin du temps imparti par une majorité de l'Assemblée nationale, dont des députés qui allaient de la France insoumise à des députés des Républicains. Donc, tout l'éventail politique est d'accord, il faut faire voter cette loi. Mais il y a des oppositions, vous avez raison de le souligner, des oppositions qui viennent des autorités religieuses. Regardez, le président Macron vient d'aller voir le pape, qui évidemment lui dit qu'il est contre. Et les représentants des cultes musulmans ou le grand rabbin de France est contre aussi. Voilà, les chefs religieux ne sont pas d'accord. Par ailleurs, l'ordre des médecins se déclare contre aussi. De la même façon quand dans les années 70, qu'il se déclarait contre l'interruption volontaire de grossesse.
Oui, on ne peut pas s'empêcher de surtout avec l'actualité cinématographique, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette autre grande loi de 74 sur l'IVG. Effectivement, donc, il semblerait que culturellement et dans l'opinion publique, un certain nombre de choses soient acquises, mais subsistent des oppositions. Et alors, curieusement, effectivement, et nous en avons parlé un petit peu hors antenne, à l'intérieur même du monde médical, une opposition, mais apparemment pas si majoritaire que ça, se présente.
Oui, vous faites allusion à cet article du Dauphiné Libéré,
voilà,
qui est paru il y a quelques jours, où on nous explique, on nous met quasiment en titre que 85% des soignants sont contre un changement de la loi. Mais si on regarde de près, il s'agit d'un sondage qui a été fait par la SFAP, c'est-à-dire la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui représente à peu près 10 000 médecins en France sur les 229 000 médecins qui exercent. Donc ça veut dire qu'on pourrait titrer aussi moins de 10% des médecins s'opposent à un changement de la loi. Alors, il ne faut pas quand même jouer avec les chiffres et les présenter comme ça de façon tendancieuse. Hein. L'argumentation, il n'y a pas longtemps, j'écoutais Anne de la Tour, qui a été présidente de la SFAP pendant 3 ans, qui avait une argumentation qui, honnêtement, m'a semblé honteuse. Son argumentation, c'était « il n'y a pas de gens qui demandent à mourir en France ». Et puis finalement, il y en a quand même qui le demandent, mais s'ils demandent, il ne faut pas les écouter parce qu'ils ne savent pas qu'avec des bons soins palliatifs, ils n'en auraient pas besoin. Et enfin, merci Monsieur Leonetti d'avoir interdit l'euthanasie parce que grâce à vous, les soins palliatifs progressent énormément. Franchement, ça me scandalise.
C'est effectivement d'un point de vue éthique assez scandaleux. On n'a pas le temps et puis c'est pas le lieu de tout un débat sur ce que peut avoir de scandale de tels propos. Donc encore une fois, apparemment une minorité bruyante qui s'oppose à une majorité qui reste un peu silencieuse, peut-être un petit peu trop silencieuse, puisque, comme vous le soulignez, une sorte de consensus. Alors, l'opinion publique, on l'a un petit peu entendu s'exprimer, mais alors très diversement, à l'occasion d'un fait divers qui s'est produit en Belgique, là, où une jeune femme de 23 ans, juste
23 ans.
23 ans, oui, a demandé à mourir à cause de souffrance psychologique qui était devenue insupportable. Cette demande de cette jeune fille, donc accordée en Belgique, a reçu un accueil un peu divers ici en France.
Alors c'est normal qu'on se pose des questions, bien sûr. Cependant, là encore, il ne faut pas manipuler les chiffres. Que nous disent les chiffres ? Que les euthanasies en Belgique pour cause psychologique ou problème cognitif, ça représente moins de 2% des euthanasies qui sont pratiquées. Ce qui veut dire que ce cas est un cas tout à fait limite, exceptionnel, sur lequel d'ailleurs la justice se penche, et à juste titre, parce qu'une loi comme celle-ci doit être contrôlée par les instances juridiques et judiciaires, bien entendu. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Hein, ça, c'est un cas très exceptionnel et auquel on donne, à mon avis, une forte audience qui n'a pas de rapport avec son importance réelle.
Autre phénomène, d'ailleurs, à mon avis, médiatique courant, à côté des minorités bruyantes, les arbres qui cachent la forêt. Ce sont deux topoïs des médias qui sont assez fréquents. Heureusement, donc, vous, ADMD de l'Ardèche, vous avez une actualité pour essayer de faire avancer les choses ici. J'ai entendu parler donc de la projection d'un documentaire, c'est ça ?
Alors c'est un documentaire qu'il faut vraiment aller voir. C'est passionnant, c'est poignant et c'est éclairant sur la situation en Belgique. Ça s'appelle « Les mots de la fin ». On le projette le 2 novembre, jour des morts, à Aubenas, au cinéma Le Navire, à 18h30. Et ça tourne autour des consultations de fin de vie au CHU de Liège par le docteur Dama. C'est tout à fait intéressant et ça met fin aux idées reçues sur les dérives prétendues de la loi en Belgique.
Ouais, je voudrais qu'on revienne donc sur la date. C'est le 2 novembre, jour des morts, effectivement. C'est à Aubenas et c'est à quelle heure ?
18h30 et en fait, ça fait partie de manifestations qui vont avoir lieu partout en France, puisque le 2 novembre, c'est la journée nationale et internationale de l'aide à mourir dans la dignité. Et donc, il y aura des manifestations un peu partout en France.
Donc, je crois, projection également à Annonay le 1er novembre et à Auvence le 3.
C'est le contraire. C'est pas grave.
Voilà.
Le 1er novembre Auvence, le 3 novembre à Annonay, où nous avons aussi une permanence. On vient aussi d'ouvrir une permanence en septembre à Aubenas, le premier lundi de chaque mois. Au Palabre, et puis on a même une nouvelle permanence au Vence qui aura lieu les deuxièmes vendredis de chaque mois.
Eh bien, mon lapsus aura permis de ressouligner l'information. Nous allons donc nous quitter, non sans avoir dédié cette émission à une personne dont vous vouliez nous parler rapidement.
Eh bien oui, à chaque fois que je parle en public, je dédie cette séquence à Paulette. Alors Paulette, qui est Paulette ? Eh bien, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Paulette, j'ai vu que c'était la première adhérente ardéchoise. En mai 85, Paulette a adhéré pour soutenir notre combat. Et j'espère bien qu'elle n'aura pas à attendre 2025 pour que son combat ait abouti.
Elisabeth Foucault et l'ADMD, eh bien, merci de votre passage sur les ondes de Fréquence 7. Nous allons nous quitter et bon vent.